Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à Ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, nous recevons Léonie Couture, directrice générale et fondatrice de la Rue des Femmes. Un parcours exceptionnel. Léonie Couture se consacre depuis une trentaine d'années au bien-être des femmes et à la défense de leurs droits. Elle détient un baccalauréat en administration de l'Université Laval ainsi qu'une formation complémentaire en psychologie de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal. Elle a commencé son parcours professionnel comme consultante en développement organisationnel. Et puis en 1981, portée par son humanisme et par sa réflexion féministe, elle a quitté le milieu institutionnel pour s'engager dans le milieu communautaire. En 1994, donc, elle décide de fonder la Rue des Femmes. On va un petit peu vite, mais on va avoir toute l'émission pour lui parler. En juin 2012, elle a été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec. Alors, vraiment énormément de prix, donc je tiens à les donner. 2013, prix Desjardins, femme d'influence. 2013, nomination au palmarès des 10 Québécoises les plus influentes par la presse à l'occasion de la Journée internationale des femmes. 2012, chevalière de l'Ordre national du Québec. 2011, prix annuel Desjardins dans la catégorie service à la communauté. 2011, toujours prix Thérèse Davio, personnalité citoyenne montréalaise de l'année, décernée par la Ville de Montréal. 2010, personnalité de l'année dans la catégorie courage, humanisme, accomplissement personnel par la presse, Radio-Canada et personnalité de la semaine, 19 juillet 2010. 2009, prix Persillier-Lachapelle, catégorie organisme communautaire remis par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 2008, prix d'excellence Jean-Pierre Bélanger, remis par l'Association de la santé publique du Québec. 2005, prix des femmes d'affaires du Québec, remis par la RFAQ. Madame Couture, bienvenue à notre émission.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir.
Ça me fait plaisir, moi aussi. Merci.
Quand vous écoutez la liste de ce que vous avez accompli, la liste de vos prix, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça vous fait?
Bien, c'est sûr que ce sont des reconnaissances. Ce sont aussi... ça marque des, si on veut dire, des étapes. Hein, dans tout... Ben, c'est... Dans mon travail pour bâtir la Rue des Femmes, c'est sûr que ça, on est parti de très peu, très petit, et chaque étape, ben, c'est un petit peu comme, bon, c'est ça, comme je dis, j'ai dit tantôt, une reconnaissance, mais aussi ça nous permet aussi, d'une fois à l'autre, je sais pas, d'aller plus loin, je dirais, c'est ça.
D'aller plus loin.
Et de voir aussi que l'idée qu'on apporte, parce que pour moi, la Rue des Femmes, je l'ai développée sur une idée qui s'appelle la santé relationnelle, mm-hmm. en comprenant que derrière toutes ces grandes détresse des personnes qui ont tout perdu, abandonné à la rue, tout ça. Il y a quelque chose de très relationnel dans tout cet événement-là. Mm-hmm. Et pour moi, chaque fois qu'on a des prix, ça veut dire qu'on comprend un peu plus, on avance un peu plus dans cette idée-là.
C'est un
idée-là.
Petit pas dans la bonne direction.
Exactement.
Pour la dignité des femmes.
Exact.
On va amplement en parler de cette Rue des Femmes parce que c'est ce qui vous donne toute votre passion, c'est la genèse de votre vie. Mais avant, la petite fille, qui étiez-vous, Saint-Georges-de-Beauce?
Oui.
Racontez-nous un petit peu, parce que vous avez fait pas mal de pas. Comment c'était votre enfance?
Mon enfance, je pourrais dire... J'ai eu des parents qui nous ont aimés beaucoup. Je suis la troisième d'une famille de 7 enfants. 4 filles d'abord, 3 garçons ensuite. Mon père était cultivateur. Et pour eux, ils ont travaillé très, très, très dur et ils avaient besoin de notre aide, les enfants. Alors, tôt, on a commencé à les aider au champ, un peu partout. On allait à l'école, à la campagne, et c'était pas facile. Il y avait, je pense que nos parents faisaient tellement de leur mieux. En même temps, c'est des gens en grande difficulté. Enfin, il y avait comme malheureusement beaucoup de harcèlement à l'école, des choses comme ça.
Ah oui?
Mais bon, on grandit, on essaie de s'en sortir. Ma mère, elle voulait tellement qu'on aille à l'école, particulièrement ses filles, parce que c'était quelque chose qu'elle avait tellement voulu pour elle-même.
Donc, elle n'avait pas été, c'est ça?
Non, non. Et donc, dès qu'elle a pu, elle nous a envoyé à l'école, tout le monde d'ailleurs. Et c'était comme, je pense que malgré ces affaires difficiles, pour moi, le salut résidait dans l'école. Le salut, c'était comme si on réussissait à passer au travers, c'était comme ça qu'on allait finalement aller plus loin. Alors, ça, c'est grâce à ma mère qui a travaillé très, très, très dur. Mes parents aussi. En tout cas, je me répète, mais... Puis ils nous ont, malgré toutes leurs difficultés, moi, je dirais qu'ils nous ont beaucoup aimés. Alors, c'est ça aussi qui m'a aidée à aller plus loin. Je me souviens, avec tout ce qui se passait, avec qui nous arrivait à l'école, ils essayaient tellement de faire que ça cesse. La peine qui vivait par rapport à tout ça, quand je parlais de harcèlement.
Mais oui, c'est ça. On peut peut-être savoir un petit peu le harcèlement. C'était de l'intimidation? C'était quoi?
Oui, c'était de l'intimidation. Je pense qu'on était... mon père venait de la Gaspésie. Alors, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y avait cette espèce de peur de l'étranger ou de l'accent ou je ne sais pas trop quoi. Alors, tout ça, ça s'est bâti autour de ça. Mais bon, on en est sortis aujourd'hui. Et c'est peut-être tout ça aussi qui m'a amenée à là où je suis aujourd'hui. Dans le sens que malgré tout ça, il y avait toujours du bon monde au travers de tout ça. Il y avait toujours des personnes qui comprenaient ou en tout cas. Et finalement, tout ça aussi, ça a eu des conséquences difficiles pour des personnes dans ma famille aussi. Hein. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est assez difficile à vivre aussi. Mais à travers tout ça, moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre que, j'ai jamais abandonné l'idée que c'était du bon monde, malgré tout. Hein, mes parents nous aimaient et il n'y avait pas nécessairement les meilleures façons, mais les autres enfants aussi, leurs parents les aimaient. Et en arrière de tout ça, il y avait beaucoup d'insécurité, de peur, de tout ça. Alors, je pense que c'est un petit peu de là que je suis partie, puis qui a fait que, petit à petit, moi, j'ai tellement voulu que mes frères, mes sœurs aillent bien.
Est-ce qu'ils allaient bien? Est-ce qu'ils allaient à l'école? Ça allait?
Oui, tout le monde est allé à l'école. Mais je pense que les peines... Les difficultés ont fait aussi qu'ils ne sont pas allés aussi loin nécessairement, tout le monde, qu'ils auraient pu aller. Mais malgré tout ça, oui, il y a eu des bonnes choses qui leur sont arrivées. Et voilà, la vie continue.
La vie continue. Est-ce qu'il y avait, vous avez dit, les difficultés, est-ce qu'on peut, parce que avec votre parcours, votre sensibilité, des fois on se dit, bon, ça part de quelque chose? Où on veut réparer, on veut dans la vie donner ce qu'on n'a pas eu. Est-ce que vous, au niveau financier, est-ce que ça allait ou c'était difficile dans votre famille?
Ça allait. Hein, mes parents, comme je disais, ils travaillaient très, très dur. Puis là-dessus, ma mère, c'était vraiment une femme d'affaires à sa façon. Elle savait, c'est elle qui s'occupait des livres, des comptes. Elle aidait beaucoup mon père. Elle travaillait aussi dur que lui, mais en tout cas, au champ, à l'étable, partout.
Donc, elle gérait les choses.
Elle gérait les choses. Puis je pense que mon père puis ma mère faisaient une bonne équipe dans ce domaine-là. Mm-hmm. Ils étaient bons ensemble. Et parce que mon père aussi était très travaillant. Alors, c'est comme, il voulait. Ma mère disait souvent, on a tellement aimé notre travail.
Ah oui,
et c'était vrai.
Ah oui.
C'était très vrai. Même si c'était dur, c'était vrai. Alors, c'est sûr qu'il voulait qu'on ait assez d'argent. Il voulait nous donner tout ce qu'il pouvait. Ils l'ont fait. Et pour moi, l'argent, ça n'a jamais été un problème dans ma vie. Jamais. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus.
Okay. Okay.
Alors, puis on a pu aller à l'école, je suis allée à l'université, tout ça. Et ça, comme je disais tantôt, c'était vraiment une valeur que ma mère tenait beaucoup, beaucoup.
Et c'est là que vous accomplissiez à l'école. Vous m'avez dit tout à l'heure, oui, là, c'était un peu votre refuge.
C'était l'espoir. C'était par là qu'on allait sortir de, si on veut, de toutes ces choses d'intimidation, comme à la maison. C'était difficile parce que mes parents, comme ils étaient tantôt, étaient très en difficulté. Alors, des fois, quand ils perdaient les pédales, ben, c'était pas le fun non plus.
Mais non.
Il y avait la violence aussi, puis des choses comme
ça. OK, la violence était dans votre enfance, oui?
Oui. Alors...
Vous étiez par rapport à ça? Est-ce que vous étiez plus...
Bon, on essayait de... Pour moi, j'essayais d'en... J'avais mon frère qui malheureusement, était souvent la cible, une cible. Mm. Et... Moi, je me battais bec et ongle pour le protéger. Et j'étais très sensible beaucoup là-dessus. Et ça fait qu'à un moment donné, j'étais très, très, très en colère, particulièrement contre mon père. Mais et je pense que ça a beaucoup nourri mon féminisme à un certain moment donné.
ça part toujours de quelque part, oui. Comme on dit. Hein. Ça part de quelque part.
Oui, ouais, mais ouais. Avec le temps, puis je pense avec le travail que j'ai fait sur moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi parce que tout ça, ça marque.
Ouais.
Et
on marche tout le temps à côté de notre passé.
Ça vient nous briser beaucoup au niveau de notre confiance en soi, de notre capacité d'être avec les autres, à s'intégrer, tout ça. Alors, pour moi, je me sentais... avec une intelligence, une assez forte intelligence, mais émotivement, j'étais tellement fragile que mon désespoir, souvent, c'est que j'avais l'impression que j'avais une mine d'or, mais que je ne pouvais pas y avoir accès. Parce que au niveau émotionnel, au niveau relationnel, j'étais brisée.
Ouais.
Et donc, j'ai travaillé très fort sur moi pour soigner tout ça. Puis c'est à travers ça, finalement, que j'ai trouvé mon chemin.
J'ai trouvé ma voie. En vous réparant.
En vous réparant.
Ouais.
C'était essentiel pour réussir à faire mon travail, mes premiers emplois, tout ça, assez vite. Je pense que j'étais encore à l'université, puis j'allais voir le psychologue des services aux étudiants.
Alors vous avez quand même consulté rapidement.
J'étais très jeune depuis toute jeune, j'étais consciente aussi. J'ai toujours été consciente que ça n'avait pas de bon sens ce qui se passait, que ce soit dans ma famille, que ce soit... Parce qu'en même temps, moi, j'aimais mes parents. Je sentais qu'ils nous aimaient, mais quand ils perdaient les pédales puis qu'ils nous faisaient si mal... Et que,
la violence
et
à l'école, verbale et physique,
oui,
les deux.
Oui, et à l'école, c'était comme ça se pouvait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Pourquoi que ces gens-là, que mes parents faisaient, arrivaient à des moments, parce que même à l'école, il y a des bouts, c'était correct, et tout d'un coup, un petit événement anodin, puis tout basculait, puis on devenait la cible. Alors...
Mais là, vous n'aviez plus de refuge à ce moment-là. Si la maison, c'était violent.
Oui, mais c'était
l'école,
surtout...
il y avait l'intimidation. Mais c'est dur de se retrouver.
Mais c'était plus le bout. C'est drôle parce que à la petite école, à l'école de campagne, c'était là surtout que ça se passait. Après ça, il y avait l'autobus pour nous amener à l'école au village. Mais c'était rendu au village qui était le refuge, dans le sens que là, on était à l'école et ça se passait pas. Ça se passait pas dans cette cour d'école, ça se passait pas à l'école. Mais ça, pas pour moi en tout cas, ça s'est passé pour mon frère, mais ça s'est pas passé pour moi. Puis je pense, en tout cas, si jamais ça arrivait, c'était très peu, mais c'était toujours avec les enfants de, de ma petite enfance. Et ça, c'était triste parce que il y avait du bon monde là-dedans aussi.
Alors, on fait une petite pause.
C'était des bonnes personnes, malgré tout.
Malgré tout. On fait une pause, on revient. On dirait que la musique va avec votre histoire, tranquillement, doucement, vous remontez, vous retrouvez un petit peu de l'estime de vous-même, parce que c'est ça qui est brisé quand il y a l'intimidation, la violence, on cherche un refuge, et c'est ce que vous avez essayé de faire. En même temps, vous dites, c'est peut-être pour ça que je suis à la rue des femmes, hein, on peut vraiment lier les deux. Donc, est-ce que vous aviez vos rêves brisés? Est-ce que, à ce moment-là, étant plus jeune, vous étiez capable de rêver à un métier, à un avenir?
Oui, je pense que j'ai eu la chance. C'est comme si, en dedans de moi, j'ai toujours trouvé de la place pour être heureuse. Je me souviens, à un moment donné, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je me mettais à chanter. Puis je me rappelle, un jour, mon père, il m'avait dit, « Quand tu as de la peine, tu chantes. » Je pense qu'il l'avait senti, mais c'était vrai. Alors, il me venait des airs comme ça, puis pour moi, ça me remettait. Donc, je ne perdais pas, je pense à ma sœur qui disait qu'elle voyait toujours toute noire. Moi, j'ai eu la chance, le bonheur, la santé, je dirais, de ne pas devenir aussi brisée. Ça ne m'a pas enlevé ma capacité de voir le soleil, de voir qu'il y avait quelque chose de possible, puis quelque chose de beau. Et c'est sûr que... quand je pensais à mon avenir, oui, je pensais à mon avenir. Ma mère a trouvé ça important. Mes parents aussi, mon père aussi aidait là-dedans. Peut-être moins lui, plus ma mère, mais je dirais les deux, parce qu'il fallait qu'ils soient les deux. Puis, oui, l'université, d'une certaine façon, pour moi, c'était... oui, ça allait me permettre d'aller chercher un métier.
Mais est-ce que vous saviez? Parce que quand on est plus jeune, souvent on se dit « Ah, mais je vais faire ci. » Moi, même, ça arrive très, très jeune. Hein? « Moi, je vais faire un hôtesse de l'air. Je vais faire un médecin. » Vous, est-ce que vous aviez une idée?
Ben, je me suis questionnée, mais à un moment donné, je pense que j'aimais tout.
Ah.
J'avais envie de tout. J'aurais eu envie d'être infirmière, enseignante. Ben, j'aurais peut-être pu, mes deux sœurs avant moi étaient enseignantes. Ma grand-mère était enseignante. Ma marraine était enseignante. Je pensais peut-être, à un moment donné, médecin, mais mes notes suivaient pas dans ce niveau-là. Ensuite, je suis allée plus du côté des mathématiques, tout ça, puis je savais pas trop. Alors, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller dans quelque chose qui m'ouvre, dans le fond, toutes ces portes-là. Administration.
Oui, mais ça, c'est fou. Je regardais ce parcours-là, puis je regardais, me recherchais, ça m'avait donné les notes sur votre vie, puis je me disais, c'est bizarre, je vous imaginais pas en administration, mais bon, c'est parce que tellement social, je vais pas dire que l'administration, c'est pas social, mais dans les chiffres, moins, alors, donc, vous êtes administration.
Oui, okay. J'étais bonne en maths.
Okay.
Alors ça facilitait les choses. Mm-hmm. La psychologie m'intéressait aussi beaucoup. Mm-hmm. Mais je me disais, non, j'ai trop de problèmes. Je n'irai pas régler mes problèmes là-dedans. Ce n'est pas la place.
Okay.
Ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Alors, j'ai fait l'administration. Ce n'était pas facile tout le temps parce que quand je suis arrivée à l'université, je trouvais ça difficile dans mon milieu. Puis, il y avait des choses difficiles. Autant, tout d'un coup, je me retrouvais comme... toute seule, j'avais des amis, mais c'était là que ça se révélait, mes difficultés au niveau relationnel, ma confiance en moi, tout ça. Alors, ça fait que ça a été très difficile, d'où que j'étais souvent... j'étais une de celles qui s'est beaucoup servi des psychologues du service aux étudiants.
Oui, c'est ça que vous disiez tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous consultez quand vous allez à l'université?
Bien, je l'avais fait un petit peu au cégep.
Ah, quand même, hein?
J'allais voir le prof en psycho.
OK.
Parce que, comme je disais tantôt, j'étais très consciente, déjà jeune, que ça, c'était pas normal vivre ces choses-là.
Non, c'est ça.
Et j'étais consciente aussi de ce que ça me faisait.
Mm-hmm.
Je le voyais chez mes frères, sœurs, qu'est-ce qui se passait aussi. Et je voulais m'en sortir, je voulais trouver des voies de guérison, de sortie à tout ça. Alors, c'est sûr qu'à l'université, ça avait de l'impact sur mes notes aussi. Alors, ça rendait mes études très difficiles. Mais j'ai fini par passer au travers.
En consultant?
Oui, entre autres. Uh-huh. Mais j'ai travaillé très dur. Un jour, j'ai eu mon bac. Alors, j'étais bien contente. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler, entre autres dans le milieu de la santé, hein, comme dans un hôpital. J'ai travaillé aussi au gouvernement fédéral. Mais encore là, c'était difficile. Tout était difficile.
qu'est-ce qui était difficile? Toujours le fait d'avoir une enfance un peu violentée, brisée, où l'estime de vous-même était...
Mais c'est que ça nous brise. Tout ça brise. Moi, j'ai toujours dit, abuser un enfant, ça détruit ses capacités d'être en lien avec lui-même et avec les autres. Et ça... Pour moi, c'est là que j'arrive avec mon idée de santé relationnelle. Pour être en relation, ça prend un support. Hein? Mmh. Pour voir, notre support, c'est les yeux. Pour marcher, notre support, c'est les jambes. Pour être en relation, ça prend aussi un support. Hein? On l'a découvert avec le téléphone. Hein? Ça prend... un fil.
Ça prend quelqu'un à l'autre bout.
Ça prend quelqu'un à l'autre bout, mais ça prend quelque chose qui va nous... Ça prend quelque chose de magnétique. Mm-hmm. On a trouvé l'instrument hein, que j'appelle le support, qui nous permet d'utiliser les ondes pour arriver à l'autre bout et vice-versa. Hein, l'Internet, encore plus, nos modems, dans le fond. Des fois, je dis le Wi-Fi, mais en fait, le Wi-Fi... C'est les ondes.
Exactement.
Mais ça prend un instrument. Mm-hmm. Donc, pour être en relation, ça prend un instrument. Alors, pour moi, il y a quelque chose de physique, d'organique, qui, quand on brise, quand on abuse une personne sur le, au niveau relationnel, on la brise au niveau de cet instrument-là. Mm-hmm. Et quand ça s'est brisé, ça amène beaucoup de souffrance, comme une peine d'amour. Hein? On sait tout comment ça peut être douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux? C'est... Puis souvent, on va se toucher au ventre. Hein? Ça fait mal. On dirait que c'est de là que le mal part. Et pour moi, à un moment donné, c'est un petit peu... Il y a comme une espèce de cordon invisible qui nous permet d'être en relation. Et pour moi, c'est peut-être ça l'instrument. Mais c'est ça qui est brisé aussi. C'est ça qui amène tant de souffrance. Mm-hmm. Et pourquoi que je vous dis ça?
C'est dur. Est-ce que parce que vous avez dit à l'université c'était difficile, les notes étaient pas très bonnes parce que c'était relié à cette fracture de l'âme, cette fracture de l'âme.
Et j'étais très souffrante. Hein? J'avais peur. J'osais pas être en relation avec les autres. J'étais très gênée. En même temps, j'oubliais souvent ça, puis je pouvais quand même, je ne sais pas, il y avait comme une joie de vivre, une vitalité qui côtoyait tout ça aussi, qui me permettait quand même de ne pas sombrer.
Je vais aller dans la psychologie. Est-ce que les gens qui subissent de la violence arrivent à, c'est complètement spécial là, mais à avoir honte d'eux-mêmes? Est-ce que vous aviez ce sentiment, pas d'avoir de honte, mais de un peu de se dire comme si c'était de votre faute là finalement?
Je pense pas, parce que au fond, bon, il y a eu le bout du côté de ma famille qui était difficile, mais le bout du côté de ce qui se passait dehors, ça nous est tout arrivé à tous les enfants chez nous. Alors on pouvait se dire que c'était pas juste à moi. Puis c'était pas correct, puis il était méchant dehors. Okay. C'était un petit peu, on le résumait. Et heureusement, quand on arrivait à l'école au village, c'était plus ça. Donc, c'était pas généralisé.
Donc le village était bien pour vous.
Le village était bien pour moi, oui.
Il y avait plein d'amour dans ce village-là.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'était plus large, c'était pas juste, je sais pas, je pense à la campagne, des fois les gens sont parents, sont proches, sont, y a comme un esprit qui peut être xénophobe ou je sais pas trop quoi, mais... Oui, mon fameux village, il nous sauvait. Donc, tout n'était pas égal.
Tout n'était pas
et
noir
à
non
la
plus.
Maison, bon, c'est sûr que mes parents, comme je disais tantôt, quand ils perdaient les pédales, c'était pas drôle, mais dans les autres temps, c'était des personnes qui étaient bien aussi, qui nous protégeaient face à ce dehors si dangereux aussi.
Alors, c'était assez compliqué. On revient tout de suite après, on fait une pause et on revient avec Madame Couture, Léonie Couture.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Léonie Couture, directrice générale et fondatrice de la Rue des Femmes. Madame Couture, donc, on en était à l'université où finalement vous avez travaillé très fort sur vous-même, très fort pour obtenir des bonnes notes, très fort pour obtenir un diplôme. Et vous trouvez votre voie quand et où?
Je dirais, j'ai commencé à travailler. C'était pas facile, comme je le disais tantôt. Et éventuellement, je travaillais à Ottawa. Bon, j'ai laissé mon emploi finalement, j'ai travaillé à Hull. Et j'ai décidé que je venais vivre à Montréal. Et à ce moment-là, j'avais commencé à... J'avais commencé à faire du militantisme. J'ai commencé à faire du militantisme avec le groupe des femmes d'Ottawa. Je prenais des cours à l'Université d'Ottawa en sociologie. Et lorsque je travaillais aussi, une affaire qui me touchait beaucoup, avant ça, adolescente, je pense que j'ai passé par beaucoup de mouvements pour changer le monde. jeune.
Okay, donc c'est né à l'adolescence, mais ça, oui. Ça naît toujours dans cette période-là en général, si on, jeune, si on doit sortir dans la c'est rue. Ça. C'est ça.
Pour moi, c'était... il faut que la langue française ait sa place.
Uh-huh.
Il faut que nous, les Québécois, on ait notre place. Ensuite, je suis arrivée à Ottawa, et bien ça a encore plus exacerbé ce désir-là. Après, j'ai commencé... Bon, puis là, j'ai commencé à prendre des cours à l'Université d'Ottawa, comme je disais, en sociologie. Puis là, j'ai commencé à voir qu'il y avait aussi toutes ces différences entre les hommes et les femmes. J'étais jeune gestionnaire. Et là, tout d'un coup, je voyais ma patronne, le directeur et la directrice des soins. Pourtant, c'était deux personnes qui étaient très compétentes, les deux. Ça ne fonctionnait pas pareil. Alors là, j'ai...
Dans quel sens?
Je ne sais pas. On
elle avait moins de respect? Est-ce que...
Je ne dirais pas ça. On accédait moins facilement au directeur qu'à la directrice. C'est comme... Enfin, il y avait des choses que je trouvais qui ont commencé à me questionner. Évidemment, j'avais aussi... Moi, ma mère, elle nous avait toujours dit, ben mes filles vont aller à l'école, ça c'est sûr, autant que les garçons et tout, et elle nous poussait beaucoup. Donc, je portais aussi cette espèce de conviction que, comme femme, j'avais le droit à avoir une place. D'abord comme francophone, ensuite comme femme. Et là, je suis allée à l'université, puis j'ai commencé à étudier Marx, Engels, tous ces gens-là.
Et là, des grands penseurs.
Oui, c'est ça. Et là, j'ai commencé à voir que les femmes n'étaient pas considérées de la même façon. Mmh. Comme un jour, ça m'avait frappée. C'était écrit, je pense que c'était Engels. Il racontait l'histoire d'un monsieur qui était à la maison, pas d'emploi. Puis, en tout cas, comme ça s'est bâti au début de la Révolution industrielle. Et qui disait, ça n'a pas de bon sens. C'est moi qui est obligée de raccommoder à la maison. Puis ma femme... Tu sais, c'était comme... Mmh. Il y avait de quoi... C'est comme si on allait changer le monde, mais pour les hommes. Les femmes, elles, en tout cas, pour moi, ça me touchait beaucoup. Et là, c'est à partir de là que j'ai commencé à militer au sein des femmes. Et puis là, j'ai décidé à un moment donné que j'avais vraiment envie de changer de voie, changer d'orientation. Ça ne me satisfaisait plus, l'administration, tout ça. Alors, je me suis dit, j'abandonne ça, je m'en vais à Montréal, puis on va voir.
Et puis là, on va voir, ça a donné quoi au début? Est-ce qu'il y avait des angoisses? Est-ce qu'il y avait des...
Bien, j'ai décidé que je prenais une année vraiment d'exploration. Et à travers tout ça, j'ai découvert le monde féminisme à Montréal. J'avais commencé à y toucher à Ottawa. Je l'ai découvert davantage ici. J'ai commencé à militer, j'ai travaillé... Puis finalement, j'ai travaillé au mouvement contre le viol et l'inceste. Et là, j'ai pris conscience de toute la violence faite aux femmes. Et ça, je trouvais ça effrayant. J'en étais rendue... non, il fallait que les choses changent. Je savais pas trop comment, mais... Et c'est là que je suis devenue une pure et dure féministe. Et bon, je me souviens, au début, j'en suis devenue malade, tellement que ça me bouleversait les histoires que j'entendais. Ça n'avait pas de bon sens. Je comprenais pas qu'on
puisse... Ça vous atteignait?
Ça m'atteignait, même au niveau de ma santé physique. Bon, mais bon, petit à petit, tout ça s'est placé. Et c'est là que je pense que j'ai trouvé ma niche. J'ai commencé à faire de l'intervention avec les survivantes. Parce qu'on rencontrait ces femmes qui étaient des survivantes de viol. Et donc, on travaillait avec elles pour les aider à trouver leur sens, à se retrouver dans tout ça, parce que ces expériences-là nous laissent tellement démunis, brisés. C'est des grandes blessures relationnelles.
Il n'y a pas de mots pour ça.
Non. Et c'était inacceptable, injuste. C'est comment peut-on faire des choses comme ça? J'étais rendue à voir les petites filles toutes vulnérables, parce que oui, on rencontrait des femmes que ça venait pas nécessairement juste de leur arriver, mais elles avaient été des survivantes d'inceste aussi. C'était des survivantes d'inceste, de tout ça. Alors pour moi, c'était comme, ça n'a pas de bon sens, là. C'est quoi, là? Ça n'a pas de sens, tout ça. Et, mais aussi, faire de l'intervention, j'aimais ça beaucoup.
Oui, parce que là, vous sentiez agir, là.
Oui, agir, accueillir ces femmes-là, entendre. Parce qu'aussi, oui, il y a ce grand coup, mais ça laisse des séquelles. Autant à moi, ça m'avait laissé une confiance en moi brisée, mon estime de moi. Autant tout ça, ça m'avait brisée. Autant, c'était comme ça chez elles. Et c'est... À partir de
donc
là
vous
aussi,
pouviez partager ça à ce moment-là, parce que vous, dans un certain sens, vous aviez vécu quelque chose, pas similaire, mais quelque chose où vous étiez brisée.
Oui, il y a ça, mais c'est aussi beaucoup que pour moi, c'est devenu clair qu'il fallait vraiment que je travaille sur moi. Mmh. Je l'avais fait avant, mais là, je commençais à voir que, au fond, toutes mes grandes souffrances, mes grandes difficultés venaient de ça, venaient de cette violence-là, venaient de ce que j'avais vécu. Puis c'était l'événement, les événements, je ne pourrais jamais les enlever. Ils étaient arrivés, c'était là. Mais ce que je pouvais changer, c'était guérir. C'était, comment je pourrais dire, réparer toutes ces... changer, retrouver ma confiance en moi, faire du sens avec ça, même si ça n'a pas, m'en sortir, en fait. Mais aussi, ce qui m'a tellement aidée, aussi, ben, puis je me répète d'une certaine façon, des fois, ma façon de le dire, c'était, je suis peut-être folle, parce que je me sentais tellement folle, souvent, parce que quand on... Quand
vous sentiez folle?
Oui, parce que...
Ouais, c'est intéressant.
Quand on sent qu'on a tant de possibilités, puis moi, j'ai toujours été une personne qui fonce. Je me demande pas si je peux le faire, j'y vais.
Mais c'est bien ça.
Oui. Alors, sauf que j'y arrivais, puis des fois, je me sentais tellement démunie.
Mais c'est très bien comme vous pensez. Alors, ça là, prend des gens comme vous pour faire bouger les choses.
Qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'avais l'impression que j'étais pas capable de le faire, mais là, il fallait que je le fasse.
Alors vous avez foncé.
À ce moment-là, des fois, je me sentais folle. Mais à travers mes thérapies, Manet, oui, j'étais peut-être folle, mais j'avais des bonnes raisons pour l'être.
On fait une pause musicale et on revient tout de suite après avec la journée où vous fondez la rue des femmes.
Oui.
Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour. Aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié. Aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas. Détruira le monde par amour du combat. Je t'aime. Aimons-nous quand même, la mort unie sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords, de nos tueries. On tue sans réserve par amour. de sa patrie. On vit sans histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. Resserrons l'étreinte qui nous étouffera de joie. Je m'aime, tu t'aimes, il s'aime. Nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime, s'aimeront.
Vous auriez pu l'écrire, cette chanson.
C'est une belle chanson.
Ah, Yvon Deschamps. Léonie Couture, en 1994, vous constatez que les femmes en état d'itinérance ou en phase de devenir étaient laissées pour compte et que vous vouliez changer les choses. Et c'est pour ça que vous fondez la rue des femmes.
Oui.
Vous voulez redonner la dignité, justice, sécurité et le mot égalité à ces femmes.
Oui.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, moi, je me sentais un peu folle parce que je fonçais, j'arrêtais pas de foncer. Et vous avez foncé, je pense que vous aviez pas grand-chose. Hein. Je pense une table, quelques chaises dans un petit local. Racontez-nous le départ de tout ça. Qui vous avez réussi à convaincre? Est-ce que vous étiez toute seule au début? Parce que maintenant, on parle de 539 femmes qui peuvent avoir accès au service. Alors, racontez-nous les débuts.
Oui. Au début, à un moment donné, j'ai quitté le mouvement contre le viol parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir d'où je venais, à prendre vraiment conscience et même de des petits bouts que je me souvenais pas non plus de ce que j'avais vécu. À travailler avec des femmes au niveau de l'intervention, hein, je travaillais beaucoup aussi avec une personne qui s'appelait Shulamit Deshtman, qui m'a vraiment beaucoup aidée dans ce chemin-là, à comprendre tout ça. Hein, le quand j'étais peut-être folle, mais j'avais des bonnes raisons pour l'aide, c'était beaucoup d'elle que j'ai compris ça. Alors, pour moi, ce que je voyais, c'était la façon dont on aidait ou dont on voulait aider les femmes, les personnes qui étaient si brisées, qui avaient été brisées par la violence, pour moi. Mm-hmm. Elles avaient beau avoir des problèmes de santé mentale, elles avaient beau avoir des problèmes de consommation. Pour moi, à travailler au mouvement contre le viol et dans ce que j'ai fait au centre de santé, tout ça, je voyais que ces personnes-là, ces femmes-là, la violence les avait amenées là où elles étaient et on pensait que la violence allait les aider à s'en sortir. Je pense, un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est une auteure, Alice Miller. Son livre, c'est « Pour ton bien ». Puis je trouvais que c'était particulièrement vrai pour, en tout cas, les femmes, entre autres, toute cette violence que les femmes... Et je me souviens, un jour, j'ai ma sœur qui était en profonde dépression. C'était vraiment grave. Elle était à l'hôpital. Et moi, je commençais à découvrir tout ça. J'étais allée voir le psychiatre, puis je lui avais dit, « Garde, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ma sœur. Ça va vous aider à comprendre. Puis probablement, vous allez... plus être capable de l'aider. » Alors, je lui raconte tout ça. Puis finalement, il me dit, écoutez... puis je lui disais que j'avais vécu des choses comme ma sœur aussi. Puis il dit, vous en êtes sortie. Votre sœur, je comprends, il y a tout ça, mais la raison pourquoi que vous en êtes sortie et pas elle, c'est qu'elle était prédestinée. Et c'était comme, quoi? Et j'étais vraiment fâchée de me faire dire ça. Ouais. Et
comme sur Alors, tes prédestinés au malheur.
Exactement. Et je me souviens la façon qu'elle était traitée. Je trouvais ça tellement pas correct. Elle n'était pas crue. Elle était...
C'est comme si on l'avait abandonnée.
Abandonnée. Il n'y avait rien à faire. Hein, on disait schizophrène un jour, schizophrène toujours. On disait des choses comme ça. Puis moi, je trouvais ça inacceptable. Et je considérais que c'était de la violence, tout ça. Alors, moi, je me suis dit, il faut qu'on change ça. Ça n'a plus de bon sens. Je ne veux plus vivre dans un monde comme ça. Alors, c'est là que j'ai fondé la Rue des Femmes. Et pour moi, quelles que soient les sortes de maladies mentales, pour moi, c'était clair aussi que c'était vraiment dans le relationnel que ça se passait. C'est au niveau relationnel qu'on se rend compte qu'une personne est schizophrène ou qu'elle est paranoïaque ou des choses comme ça.
Oui, parce qu'elle soit dans la rue, c'est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que si...
Elle ne peut plus être en relation, elle peut plus, dans un travail.
Elle s'isole elle-même, finalement.
Ma sœur, c'était une enseignante, puis une très bonne enseignante. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus fonctionner avec ses compagnes, les autres enseignantes, avec les enfants, ça devenait difficile, tout devenait difficile partout. Puis pourtant, ma sœur, moi, je la connaissais. J'ai grandi avec elle, c'était une bonne personne, mais je savais aussi la souffrance qu'elle avait vécue, les choses qu'elle avait vécues, et je ne... Alors, pour moi, il fallait reconnaître ces blessures. Il fallait reconnaître tout ça pour pouvoir aider une personne. Si j'ai une jambe cassée puis qu'on ne reconnaît pas que j'ai une cassure, on ne pourra rien faire.
Puis leur donner un toit, parce que l'itinérance masculine, c'est quelque chose, mais l'itinérance féminine, il y a des préjugés qui sont encore plus grands. Et d'ailleurs, on ne le dit pas, c'est complètement secret. Et ces femmes-là subissent ce regard des gens. Et vous avez dit, ben voilà, moi, je veux les aider, je veux leur trouver un toit, en premier lieu, retrouver l'estime d'elles-mêmes, une dignité à ces femmes-là.
Oui. En même temps, je pense que oui, je partais d'être féministe dans tout ça, ma prise de conscience au niveau féministe. Mais j'avais aussi des frères qui ont souffert. J'avais aussi, pour moi, quand je me faisais battre à l'école, je n'étais pas la seule à me faire battre, mes frères aussi. Alors, et j'ai un frère qui est décédé dans un accident d'auto. Puis, ce jeune homme-là a tellement souffert. J'étais très proche de lui. Donc, pour moi, assez vite, j'ai commencé à voir que ça... Oui, l'itinérance au niveau des femmes, c'est une chose, parce que traditionnellement, de toujours, l'espace public est plus aux hommes qu'aux femmes. Les petites filles vont jouer à la maison avec leurs poupées, ils sont plus intérieurs. Aussi pour des bonnes raisons que pour des moins bonnes raisons. Ouais, et les garçons vont être plus extérieurs, aussi pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Alors, c'est sûr que l'itinérance, ça va se colorer de tout ça. Être menstruée dehors, là, ça n'a pas de bon sens. Pour accoucher, tu n'accouches pas dehors. Pour élever des enfants, c'est pas dehors non plus que ça se passe. Et donc, pour moi, ça, c'est une chose. Mais au-delà de tout ça, pour moi, c'est la violence qui amène l'itinérance.
C'est la conséquence de tout ça.
Que ça soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Pour moi, c'est toute cette souffrance relationnelle qui amène la personne à s'exclure aussi, à être exclue. Parce que quand une personne est si souffrante, malheureusement, elle n'est pas apte à faire un travail où ça demande le relationnel. Moi, je vois, on a des femmes qu'on reçoit, c'est pas... Il y a des femmes qui sont médecins, il y a des femmes qui, de toutes les classes, la société, et Souvent, il y a des femmes qui vont réussir à faire jusqu'à l'université, mettons un travail social, mais pour travailler, il faut avoir une bonne santé relationnelle. Mm-hmm. Si on n'a pas une bonne santé relationnelle, on y réussit pas. Non, parce que c'est très exigeant. C'est sur le relationnel que ça se passe. Avoir des enfants, avoir un conjoint, c'est au niveau relationnel que ça se passe. Donc, pour moi, en créant la rue des femmes, c'était l'importance, la base, c'était de reconnaître toutes ces blessures qui étaient venues fracasser les capacités relationnelles de la personne et qui, finalement, faisaient en sorte que à se retrouver à la rue. Et c'est ça pour moi, depuis 20 ans maintenant, ouais. que je trouve important de mettre en lumière, de montrer. Parce que pour moi, c'est... C'est par là que les changements dans le monde vont arriver. Ouais. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à protéger notre environnement. Notre environnement aussi, ça fait partie de l'autre. Ça fait partie de notre relation à l'autre. Du relationnel. Ouais, ouais. Si on détruit notre environnement, c'est nous-mêmes qu'on va détruire. Tout à fait. Donc, on est toujours dans le relationnel et c'est là qu'on doit guérir. C'est là qu'on doit reconnaître, comprendre. Et c'est de là que je pense qu'on va s'en sortir comme humanité.
Et pour toutes celles qui sont là, est-ce que vous pouvez dire que vous avez accompli quelque chose, qu'il y a des beaux résultats après 20 ans?
Oui. Moi, je suis toujours étonnée quand les femmes commencent à comprendre que c'est vraiment du côté relationnel.
Elles peuvent s'en sortir?
Oui, absolument.
Il y a des beaux exemples.
Hein? Absolument, on a des exemples. Ouais. C'est sûr qu'une personne qui est si brisée, tantôt je parlais du support relationnel, qui a son cordon relationnel tout massacré. Mm-hmm. Malheureusement, tout ça, ça arrive quand la personne, la plupart du temps, ça arrive quand elle est toute petite. Mais depuis qu'elle a 2 ans, 1 an, on n'a pas vu toutes ses blessures. Donc, la personne, elle a grandi comme elle a pu. Il y a des grands handicaps qui se sont aussi développés. Un peu comme moi, ma confiance en moi, ça va me prendre ma vie avant de la retrouver. Je n'aurai jamais la confiance en moi que j'aurais eue si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Ouais. Donc, alors, pour moi...
Mais en quelque sorte, vous en êtes servi pour être qui vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que ça vous a quand même...
Oui, parce qu'à un moment donné...
Aidé à vous dépasser.
Parce qu'à un moment donné, suite à ma thérapie, suite à tout le travail que j'ai fait, etc., un jour, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Je veux pas avoir vécu ça pour rien.
On fait une petite pause, on revient avec le questionnaire. Au jeu questionnaire. Donc, Madame Couture, les gens, quelles sont les personnes qui vous ont inspirée?
Je dirais, tantôt je parlais de Shulamit Lechtman, ma thérapeute qui m'a accompagnée pendant presque plus que 20 ans. Je dirais aussi un monsieur qui nous aide beaucoup à la rue des femmes, Monsieur Vélan. C'est un monsieur qui... C'est un immigrant qui a travaillé très fort, qui a beaucoup réussi. C'est un grand mécène de la rue des femmes. Mais pour moi, il me touche beaucoup par sa sagesse, par sa capacité de... son amour de l'humain, je dirais. C'est un grand humaniste, c'est un grand scientifique aussi, c'est un grand entrepreneur. Alors pour moi... c'est des personnes qui me fascinent.
Vos mentors, ça serait celles que vous nous avez données?
Oui. Puis je pensais à une personne ce matin en pensant à tout ça. Je pensais à Jeanne Mance, hein? Notre fameuse Jeanne Mance. Bientôt, ça va être les fêtes du 375e. Alors, j'espère qu'on va avoir une belle place pour Jeanne Mance.
Jeanne Mance.
Avec Maisonneuve, notre sœur de Maisonneuve.
Et en terminant, vos livres que vous nous recommandez ou qui vous ont inspiré.
Un livre qui m'a beaucoup inspiré, moi, c'est l'auteur, c'est Alice Miller, C'est pour ton bien, oui. Dans lequel elle montre jusqu'à quel point toute la violence éducative, toutes les brisures que pensant bien faire, on a infligé aux enfants avec des conséquences horribles sur leur vie, une façon de se durcir, parce que pour être un être humain, il ne fallait pas avoir de sentiments. Alors voilà, ça c'était...
Alors donc un livre qu'on va mettre sur notre site. Merci beaucoup Madame Couture d'avoir passé cette heure avec nous.
Madame Stanquet.
Merci infiniment. Merci à mon équipe, à Jean-Sébastien La Liberté qui signe la réalisation de l'émission. Christiane Campagna à recherche. Et puis Claudia Benoît au web. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.